Bon, le commerce électronique au Québec, ça marche tout ou pas?
Hey boy, on t'a entendu, Paul, depuis une semaine, dire à quel point est-ce que certaines pratiques faisaient dur. Je dois dire que chez nous, ma fille a commandé quelque chose d'un grand détaillant québécois. Ça fait un mois et une semaine que ça a été commandé. On l'a toujours pas livré. Et je peux te dire une affaire, c'est que le PDG de cette entreprise-là boue. Il est en beau joie le vert. Pourquoi? Parce que le colis a quitté ses entrepôts à peu près 24 heures après qu'on l'ait commandé. Et depuis ce temps-là, ce paquet-là joue au ping-pong entre les centres de distribution de chez Poste Canada. Et je me dis, tabarouette, ça n'a pas de bon sens. On a tous vu des photos, hein, des entrepôts pleins de colis. Un mois et quelques de transit, pas capable de livrer. Et là, aujourd'hui, ça fait passer malheureusement nos détaillants pour des deux de pique. C'est très, moi, je trouve ça dommage parce que pour une des premières fois, les Québécois essaient de commander localement. On a fait tellement de promotion de l'achat local et malheureusement, l'expérience laisse dans quelques cas à désirer. Il y a d'autres endroits, des détaillants que je pourrais te nommer, qui font un travail incroyable, exemplaire. J'ai reçu des affaires qui venaient de l'autre bout du Québec en 48 heures. C'était bien livré, bien ordonné, etc., etc. Mais là, il faut se poser la question. On fait quoi? On fait quoi dans un contexte où le commerce électronique représentait peut-être 12 % du détail en 2019 et cette année, ça va représenter probablement 25 % du détail. Et là, aujourd'hui, les compagnies internationales sont en train de manger des parts de marché, sont en train de manger nos détaillants tout rond. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça m'apparaît évident qu'on ne peut pas laisser ça aller. Le détail n'a pas été un secteur important historiquement au Québec. Investissement Québec ne supportait pas les détaillants jusqu'à il y a quelques années. Il est temps de mettre nos culottes et de dire c'est un secteur essentiel, on doit trouver des solutions pour compétitionner.
Luc? Mais à la faveur de la crise, là, le commerce électronique est apparu comme une solution. Il y a eu 38 % d'augmentation des gens qui n'avaient pas, qui n'avaient jamais fait de commerce électronique puis ont commencé à en faire. Mais attention avant d'aider le commerce électronique à grandeur. Moi, j'aimerais avoir une réflexion plus approfondie parce que quand il y a une crise, on dit go, 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 on s'en va dans cette direction-là. Mais après... Après la crise, ça pourrait être très différent. L'impact du commerce électronique sur les commerces sur rue est réel. Et l'impact du commerce électronique en environnement est extrêmement réel. Le double packaging, c'est-à-dire que le fait que ton produit arrive dans deux boîtes, la boîte dans laquelle il aurait été vendu en magasin, qui est insérée, elle, dans une boîte en carton solide pour son commerce, si tu fais trois achats, tu vas recevoir trois boîtes. Puis pour chacune de ces trois boîtes-là, ça va être un camion différent qui va venir te la livrer chez toi. Et même si tu commandes les trois produits de la même compagnie, en fonction de la date de disponibilité, ils vont venir te les porter. Le premier qui est disponible, on va venir te le porter, puis après le deuxième, puis après le troisième. C'est des milliards de transports de camions dans les villes. Des milliards. Juste à Montréal, là, dans l'ensemble du monde, juste à Montréal, 10 millions de trajets par an. 10 millions de trajets par an avec les grosses espèces de camions bruns ou blancs là, qui se garent en double systématiquement. Il n'y a pas de reculons là-dessus sur ces camions-là. Tu peux juste te mettre en double. Tu ne peux jamais te garer d'une place. Et il n'y a aucun effort qui est fait des majors pour, puis là je parle de UPS, puis Rollator, etc., en environnement, sauf sur leur page marketing. Il y a du vélo cargo électrique qui commence à être fait pour les derniers milles. Ça monte beaucoup à Montréal, c'est intéressant, parce que pour livrer une enveloppe, t'as peut-être pas besoin d'un camion. Puis quand tu vois ces camions-là, là, s'arrêter en double, là, n'importe où, souvent ils ressortent avec un tout petit paquet dans les mains. Et l'ère de la livraison en verre, elle fait juste commencer, elle ne commence pas par eux. Leurs efforts à eux sont minimes. Alors, attention avant de les aider.
Tu sais, le segment aujourd'hui le plus en croissance au niveau du commerce électronique, c'est des gens qui vont commander et qui vont se rendre chez le marchand pour ramasser leur paquet. C'est ce qui est le plus en croissance en ce moment. Donc, ces gens-là vont éviter de se stationner, vont arrêter dans un endroit où ils vont être en mesure de recevoir leur colis et pouvoir aller faire autre chose. Hein. Le temps, c'est de l'argent. On sort du bureau, on veut ramasser rapidement nos affaires. J'aime ce que tu dis, Luc. C'est-à-dire que dans la réflexion qu'on doit avoir au Québec, on ne peut pas faire autrement. justement que de inclure là-dedans les aspects environnementaux, les aspects sociaux, l'impact sur le du commerce sur rue. Et c'est, je pense, une force et pas une faiblesse au Québec d'avoir autant de détaillants qui ont des commerces sur rue, parce que ça permet aujourd'hui une livraison rapide.
Mais si j'ai une question technique à poser parce que je connais pas ça là, mais ouais. Comment ça se fait que moi, je peux commander, là, pas tout le temps, là, un produit au Québec? Là, je vais demeurer sur le marché québécois. Là, puis, comme l'exemple que tu donnais tantôt, je reçois le colis 48 heures, là, 72 heures. Puis dans d'autres cas, ça peut prendre un mois et demi, puis tu n'as pas de réponse. C'est-tu en fonction du lien de l'entreprise avec Post Canada, du volume d'affaires qu'ils leur donnent? Y a-tu des priorités qui sont données à des entreprises puis les autres doivent attendre? Je ne sais pas comment ça marche.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a des ententes aujourd'hui, effectivement, des niveaux de services qui sont offerts à certaines entreprises, puis en fonction du volume qu'elles ont, vont avoir une priorité en termes de livraison. Mais un grand détaillant dans le détail là, au Québec, là, je ne peux pas croire qu'il ait une si mauvaise entente avec Post Canada que ça prenne un mois et quelques. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un fouillis complet. Ils n'étaient pas prêts pour ce genre de volume-là, et j'ai l'impression que les colis se sont empilés, et là, aujourd'hui, ils essayent de mettre il doit avoir une couple de postiers qui sont en dessous des colis, tellement ils ont dû remplir ça rapidement. Mais ça n'a pas de sens, là. Paul, je te l'accorde, ça n'a pas de sens. Puis ça donne une mauvaise presse au commerce électronique québécois.
Dans l'augmentation du volume, qui explique peut-être aussi, parce qu'il y a plusieurs reportages qui ont été faits sur les livreurs, ils sont débordés.
Mais non, je parle à certains d'entre eux, là, parce que j'en croise... Écoute, là, il court, là. C'est pas le personnel, là. Il y a un problème d'organisation. Puis là, oui. Plus il livre, plus Post Canada perd de l'argent. C'est assez extraordinaire, ça aussi.
Mais tu sais qu'il y a un tiers des consommateurs sondés qui ont renvoyé leurs produits après les avoir essayés dans les trois mois précédents le sondage aux États-Unis. Ça veut dire que, notamment dans le domaine de la mode, tu fais venir un produit, puis la politique du commerce, c'est que si tu ne l'aimes pas, tu peux me le renvoyer gratuitement. Alors, Il y a beaucoup de gens qui font venir beaucoup de produits et qui les renvoient. Encore là, dans le domaine environnemental, ça aussi, là, ça compte. Mais ça compte aussi dans le domaine logistique. Ça génère des millions de transports, là, des millions et des millions de transports à travers la planète pour essayer un jeans qui, finalement, ne te va pas. Et by the way, le jeans, quand tu le renvoies, c'est pas certain qu'il soit revendu. Peut-être que c'est plus facile de le détruire. Il y a eu plusieurs sondages, plusieurs analyses là-dessus, des enquêtes, où on montre que les produits sont détruits plutôt que d'être revendus. Alors ça aussi, ça compte dans l'environnement.
On peut pas
dire,
de doute.
Oui, non, mais j'allais te dire, en tout cas, l'emballage, là, il y a des fois, tu te demandes, je comprends là, qu'il ne faut pas que l'item se brise, là, mais tabarouette, tu ouvres une boîte, puis t'en ouvres un autre, puis là, il y a ci, il y a ça. T'sais, tu parlais d'impact sur l'environnement, là. Tu fais quoi, là? Moi, je descends toutes ces boîtes-là au recyclage, là, puis je regarde autour, là, puis...
Ah, c'est ça. C'est exactement ça. C'est des poupées russes. Fait que il faut absolument... As-tu commandé des poupées russes?
Non, mais c'est le même principe, en tout cas.
Ouais, c'est
mais tu sais, la SAQ le faisait ça. Moi, je me souviens d'avoir commandé. Et là, maintenant, je viens de recommander. Ils ont éliminé, semble-t-il, cette approche-là. Il y avait tellement de bubble wrap autour des bouteilles. Là, ça me prenait une demi-heure être en mesure de déballer une seule caisse de 12 bouteilles de la SAQ. Et là, maintenant, ils ont enlevé ça. Alors, heureusement, parce que ça n'avait pas de bon sens. Mes enfants, à ce moment-là, avec 4 et 5 ans, sautaient sur le bubble wrap, puis les petites bulles, là. Ça, c'était le fun, là. Il était content. Alors, il était bien content quand papa recevait une caisse de la SAQ. Ça les amusait pendant une petite heure.
Juste une précision, parce qu'on a reçu une note. Il semble que c'est le syndicat de Champlain là, qui nous... Puis il y a eu d'autres courriels dans ce sens-là. Le régime de retraite des profs n'est pas indexé, me dit-on.
OK. Je vais vérifier ça et okay. Je vais confirmer ça et je me rétracterai si c'est le cas.
Ben, t'as la fin de semaine pour faire ça. On vous retrouve lundi. La 40, Marc.